deine, ich geb den meine, die klauen meine, sowieso, die wollen meine, ich geb den meine, die klauen meine, sowieso. Nach dir, der Megadata-Wurm im Netz versteckt. Metadata-Sturm, er greift nach dir, der Megadata-Wurm im Netz versteckt. Metadata-Sturm.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9 pour une nouvelle émission de La Voix est libre. Je suis Stéphane et je suis en studio avec Eda. Bonjour Eda.
Bonjour.
Alors La Voix est libre, et oui tu nous as dit bonjour mais j'avais pas mis le micro. Bonjour Eda.
Bonjour.
Ok, donc La Voix est libre est une émission de l'association Picassoft. L'association Picassoft est une association compiénoise hébergée à l'UTC dont l'objectif est de sensibiliser et former les citoyens aux enjeux du numérique, d'héberger des services web respectueux de la vie privée, de promouvoir une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur radio.picassoft.net. Alors aujourd'hui, l'intitulé de l'émission, c'est « Écologie et liberté numérique ». Et donc, nous sommes, comme je l'ai déjà dit, avec Eda. Eda, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie publique?
Eh bien, moi, je suis militante à deux associations nationales de défense et de promotion des logiciels libres, l'APRIL. Et ensuite aussi à la Quadrature du Net, qui est une autre association française qui promeut les libertés numériques et qui les analyse sur l'espace public et sur l'espace numérique. Je suis aussi informaticienne. Je fais en ce moment une thèse en écologie et numérique autour de l'obsolescence logicielle. Et auparavant, parce que j'ai plus beaucoup de temps, j'étais indépendante en développement de logiciels libres ou en formation autour de logiciels libres.
Et donc tu es également sélectionneuse de musique, hein, puisque le premier titre qu'on a commencé à entendre, dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom, Data quelque chose en allemand, était choisi par toi, mais ce n'est pas la seule surprise que tu nous as réservée.
Ouais, en fait, si vous vous rappelez, c'est un des titres phares du film Nothing to Hide de Marc Meyassou. Sorti en 2018, si je ne me trompe pas.
Ok, Nothing to Hide, donc tu crois qu'on va parler de liberté numérique peut-être aujourd'hui,
hein? Oui, bien sûr.
Ok. Eh bien, on peut commencer par ça, on peut commencer par la question du numérique libre. Les auditeurs qui nous écoutent régulièrement connaissent bien, mais comme nous-mêmes, on n'est pas forcément très réguliers dans l'émission, ça fait quelques semaines que l'on n'a pas diffusé de nouvelle émission, donc peut-être qu'on peut faire quelques rappels. Tu peux peut-être commencer par nous parler des chatons, peut-être que tu peux nous reparler un petit peu aussi de l'April, mais donc fais attention à les auditeurs de Graphite, comme j'ai déjà dit, connaissent bien les chatons. Dis pas trop de bêtises. Allez, vas-y, je te laisse y aller.
Et d'ailleurs, on est dans une radio d'un chaton ici.
Alors,
c'est Picasso.
Ouais, non, on n'est pas vraiment dans la radio du chaton. Non. La radio nous héberge, mais voilà, je crois qu'ils nous aiment bien quand même. Bon, c'est quoi des chatons, vas-y.
Mais les chatons, du coup, l'acronyme pour collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc c'est une initiative qui a été lancée par Framasoft, il me semble, Stéphane, il y a quelques années déjà. Et donc il s'agit d'une confédération, un peu comme des AMAP pour nos fruits et légumes, mais là, c'est plutôt des hébergeurs de services numériques libres qui ont une charte éthique forte. Donc c'est quelque chose qui rassemble beaucoup les chatons. Et notamment, l'idée, c'est de faire un petit peu contrepoids, ou beaucoup contrepoids aux entreprises qui monopolisent un petit peu le numérique aujourd'hui, les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, en offrant en fait des services numériques de proximité et basés sur des logiciels libres, avec une charte éthique numérique qui respecte les données personnelles.
Ok, donc AMAP, hein, AMAP du numérique, tu l'as dit, voilà, des principes d'essayer d'être local plutôt que d'utiliser des services à l'autre bout du monde gérés par des gens qu'on ne connaît pas. Eh bien, si vous avez envie de rencontrer, il y a par exemple les gens de Picassoft qui hébergent des services ici à Compiègne, eh bien c'est possible, on est à peu près dans le coin. Alors il y a un autre, on n'a pas de Picassoft, mais il y a un autre chaton qui s'appelle Chapril. Chapril, oui. C'est le chaton de l'April. Oui. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu donc, de l'association de promotion des logiciels libres? Je te laisse refinir du coup les acronymes, tu sais.
Ouais, c'est ça. Donc on n'est pas un acronyme, l'April c'est plus un acronyme.
Ah ben, désolé.
C'est juste promotion et défense des logiciels libres. Et du coup on a un chaton à l'April, c'est le Chapril, donc vous pouvez y aller, chapril.org. Il offre un tas de services en ligne basés sur des logiciels libres. On a aussi à l'April une émission radio hebdomadaire, Libre à vous, sur la radio Cause Commune. Vraiment, je vous conseille d'aller voir, d'aller écouter les podcasts. Ils sont tous en ligne. C'est vraiment quelque chose de très important pour nous depuis quelques années de maintenir les liens avec le monde du libre et les auditeurs et les utilisateurs ou juste les gens curieux de logiciels libres à travers cette émission de radio. On a aussi un travail à l'April de veille et de plaidoyer institutionnel sur ce qui se fait en termes de législation, mais de régulation aussi autour des logiciels libres. Et pour contrer un petit peu l'hégémonie des logiciels propriétaires dans la sphère publique. On a un travail en interne, mais à l'externe aussi, de plus en plus porté sur l'inclusivité dans le numérique libre, et notamment l'inclusion des femmes dans le numérique libre. Et voilà, donc je vous conseille d'aller voir le site april.org, même s'il est un peu vieillot. mais on va le refaire bientôt.
Ouais, mais en termes de contenu, il est bien.
Mais en termes de contenu, ça va. Moi, j'aime beaucoup les transcriptions qu'on fait à l'April.
Ouais.
On a vraiment un travail de transcription d'émissions qui portent sur le numérique libre ou de conférences. Ça peut être grand public, ça peut être des conférences très pointues, etc. Elles sont toutes disponibles dans librealire.org. Un site dédié, qui pour le coup est moderne et facile à lire. Et du coup, je trouve ce travail vraiment important parce que c'est à la fois un travail qui est rendu accessible, ces transcriptions de conférences vidéo ou de conférences audio qui sont transcrites. Les émissions radio sont transcrites via ce groupe de travail qui en fait est très 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 porté par Marie-Odile, membre du comité administratrice de l'April, et je la remercie parce que vraiment c'est un travail incroyable qu'elle fait.
Et on en a déjà, nous, profité pas mal aussi avec les émissions de Picassoft. Donc, ta cité Cause Commune, je crois que ça peut s'écouter également sur les ondes à Paris, sur 93.1 FM, si je dis pas de bêtises. Mais là, en ce moment, vous êtes sur 94.9 FM dans le Compiénois. Et on va s'écouter un premier morceau de musique sélectionné par Eda.
Papa Linux. bonne minute.
C'est bon.
À bonne minute.
Bienvenue, retour, on est de retour, pardon, sur 94.9 FM, c'est La Voix est libre sur Graphite, l'émission de l'association Picassov. Je suis Stéphane et je suis en studio avec Eda. Bonjour Eda, enfin je vais pas dire bonjour à chaque fois qu'on se retrouve. tu venais de nous dire que tu étais membre de l'April, de la Quadrature du Net, tu nous as présenté un petit peu l'émission de l'April. Bah du coup on peut peut-être enchaîner avec, avec ce qui se passe à la Quadrature. Alors du coup l'April s'est peut-être concentré, on va dire, d'abord sur la question du logiciel libre. Il y a la question plus large des libertés numériques ou des libertés humaines dans le contexte général du numérique, dans celui de la domination de l'internet par les géants du numérique, donc les GAFAM. Et donc voilà, bah, une des assos en France qui essaye d'organiser on va dire la résistance, l'information autour des enjeux de liberté numérique, et eh bien c'est la Quadrature du Net. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur cet asso dont tu fais partie?
Oui, du coup à la Quadrature du Net, moi je suis arrivée vers 2019, mais je suivais déjà un peu les travaux de cette association qui s'intéressait depuis les années 2008, si je ne me trompe pas. Depuis 2008, elle s'intéressait aux libertés numériques sur Internet. Donc petit à petit, en fait, on a remarqué que le numérique s'immisçant de plus en plus dans nos vies, en dehors d'Internet et de notre vie en ligne, on va dire, nous avons commencé à développer des groupes de travail qui justement s'intéressent aux libertés numériques dans d'autres espaces. Nous avons lancé par exemple en 2019 une campagne qui s'appelle Technopolis, qui vise à analyser et documenter et surveiller la surveillance dans l'espace public, donc pas uniquement en ligne. Il s'agit notamment de voir comment les dispositifs de vidéosurveillance, caméras, sont mis en place dans les villes. Et ensuite, on a remarqué un couplage de ces caméras avec des algorithmes de plus en plus automatisés. Et on va parler, nous, maintenant, de vidéosurveillance algorithmique. Le terme technique qu'on entend des fois, c'est vidéosurveillance automatique. Les pouvoirs publics appellent ça la vidéosurveillance intelligente, des fois vidéosurveillance bienveillante. Non, là, j'exagère, mais presque. Et du coup, avec notamment, dernièrement, notre focus est sur la légalisation des dispositifs de vidéosurveillance algorithmique dans le cadre plus étendu des JO. Donc dans le cadre des JO, mais étendu, puisqu'en fait on a légalisé, le premier pays en Europe, la France, on a légalisé la vidéosurveillance algorithmique à partir de maintenant, enfin c'était déjà en mars dernier, jusqu'à fin mars 2025, donc après les JO, et dans un cadre élargi, pas uniquement les événements sportifs liés aux JO, mais ce sera expérimenté, c'est déjà expérimenté, dans le cadre des rassemblements culturels, artistiques, les marchés dans les rues, la fête de la musique, ce sera expérimenté. Voilà, donc...
Et je crois, Eda, hein, c'est un des points qu'on retrouve souvent, parce qu'on peut dire, ok, bah dans le cadre des JO, effectivement, il y a plus de risques de terrorisme ou d'attaque, donc on va mettre en place un processus de surveillance. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'on introduit un processus comme ça, bah il reste en fait, puis il s'étend et on l'utilise ensuite pour d'autres contextes, n'est-ce pas?
Oui, c'est exactement ça. C'est l'effet levier, en fait. On introduit un nouveau dispositif et en fait, on remarque que en pratique, il n'est jamais désinstallé, il n'est jamais, on revient jamais en arrière, en fait. Une fois qu'on a un dispositif, on trouve ensuite des prétextes, des moyens pour continuer à le mettre en place dans d'autres cadres. On a par exemple déjà la ministre de la Santé qui nous dit qu'il n'est pas exclu que le dispositif légalisé dans le cadre de JO de la VSA soit étendu à d'autres événements sportifs pour plus tard. On a déjà des appels de politiques qui souhaitent le mettre en place pour les JO 2030 qui auront lieu dans la région sud et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc du coup, on l'a déjà vu hein, par le passé, les dispositifs de surveillance mis en place après les attentats terroristes, par exemple en France, n'ont jamais été désinstallés. Ils sont toujours là, ils sont perfectionnés, ils sont mis en place autrement, ils sont généralisés. Donc c'est l'effet levier, l'effet cliquet dont on a peur là encore une fois.
Ok, donc là tu nous as parlé un peu de cette campagne Technopolis sur laquelle vous travaillez maintenant depuis pas mal de temps, son inscription dans les JO. Il y a d'autres sujets que vous abordez à la Quadrature dont tu souhaites parler ?
Ouais, je voulais juste donner, on vient de lancer un petit peu un nouveau pan de cette campagne contre la VSA, la vidéosurveillance algorithmique pour les JO. Elle est visible sur le site de la Quadrature, donc laquadrature.net/VSA. Donc il y a vraiment un kit de mobilisation qu'on peut imprimer, qu'on peut prendre en main. On a on a une brochure qui explique qu'est-ce que c'est, parce que là on n'en a pas beaucoup parlé, mais qu'est-ce que c'est exactement, comment elle se met en place, en quoi est-ce qu'elle est dangereuse pour les libertés fondamentales, en quoi elle porte, elle exaspère les discriminations sur l'espace public, encore une fois, donc ça c'est quelque chose de très important pour nous. Mais oui, on a d'autres groupes de travail qui se mettent en place à la Quadrature. On a par exemple un nouveau groupe de travail qui travaille depuis déjà un an sur les algorithmes de contrôle social, et notamment ce groupe de travail a commencé par tout un pan d'analyse des algorithmes de la CAF, l'organisme d'aide sociale, la CAF français, et notamment sur le calcul des scores de risque de la CAF. Donc en gros, il y a un algorithme qui calcule automatiquement le risque de fraude aux aides sociales données par la CAF. Et cet algorithme-là, nous avons fait tout un travail pour déjà récupérer le code source. On n'a pas réussi encore. Mais ensuite, pour récupérer, donc ça c'est légalement, on y a droit, pour récupérer sa façon de fonctionner, quelles sont les personnes qu'elle vise, comment il fonctionne. Voilà. Et du coup, nous avons tout un pan d'analyse qu'on a faite. Et on s'est rendu compte qu'encore une fois, c'était un algorithme très discriminant envers les personnes défavorisées, envers les personnes les plus pauvres, envers les personnes, les mères isolées avec enfants, par exemple, les personnes de nationalité étrangère, etc. Donc, je vous invite à aller voir sur le site laquadrature.net tous les articles qui relèvent avec le mot-clé CAF. Vous pouvez les retrouver tous dans l'ordre chronologique. On a un autre groupe de travail qui porte sur la surveillance des militants. Ça, c'est un nouveau groupe de travail. Voilà, donc du coup, ça a des liens avec Technopolis, mais là, ça porte plus sur la surveillance des militants, et notamment des militants écologistes, voilà, qui font l'objet en France de beaucoup de surveillance. On voudrait lancer un nouveau groupe de travail sur l'intelligence artificielle, et depuis quelques mois, déjà, on a un tout nouveau groupe de travail sur les liens entre écologie et numérique. Et du coup, là, je suis active dans ce groupe-là et donc je suis très contente qu'on lance le débat aussi à l'intérieur là-dessus.
Ok, mais on n'en parle pas tout de suite. On va écouter un petit peu de musique. On va écouter donc Techno Flic et on reparlera écologie et numérique après.
Mort, c'est... Salut.
Eh bien, on est de retour sur Graphite. Enfin, à chaque fois, je dis qu'on est de retour parce que nous, on a eu l'impression d'être partis. Mais vous, vous avez entendu Technoflic par le groupe Poésie Zéro, un choix de Eda que je reçois aujourd'hui dans l'émission La Voix est libre, l'émission de Picassoft, dans laquelle on parle liberté numérique. Alors, Eda nous a parlé un petit peu de l'April, l'association de défense du logiciel libre et plus généralement des libertés numériques, de son chaton Chapril. Et puis, on vient juste de parler un peu plus de la quadrature du net, en particulier donc, dont vous pouvez retrouver les campagnes de sensibilisation et d'action sur laquadrature.net. Tu nous as parlé de la vidéosurveillance automatisée, et même si tu nous en as effectivement pas donné les détails, ce sont des choses que l'on peut retrouver donc, sur le site de la quadrature pour comprendre en quoi, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques, mettre en place une surveillance généralisée à travers la vidéo est problématique. Tu nous as parlé plus généralement du travail que vous faisiez sur l'algorithmisation, le fait d'utiliser des algorithmes dans notre vie quotidienne. Tu as cité l'exemple de la CAF, peut-être un exemple qui parle en ce moment à un certain nombre d'auditeurs, c'est celui de Parcoursup. Donc comment ces systèmes fonctionnent, essayer de les comprendre, pouvoir connaître les règles algorithmiques, avoir accès au code pour pouvoir exercer sa citoyenneté et voir eh bien, si on est d'accord ou pas d'accord en fait, avec la façon dont ils fonctionnent. Eh bien, pour ça, il faut que des gens se préoccupent du fonctionnement de ces différents algorithmes et puis fassent l'effort de les analyser, etc. C'est ce que vous faites notamment à la quadrature, Eda. Et voilà, donc c'est pas mal de boulot. Et merci pour tout ça, parce que grâce à ça, on va dire, il y a un petit peu d'avancées qui sont faites, ou au moins on peut discuter de ces sujets. Et puis, dernier sujet, j'ai dit en entrée que voilà, tu étais membre militante de ces associations, mais tu es également retournée à l'école, en quelque sorte. Tu es doctorante donc, en écologie et écologie numérique. Alors, c'est un sujet qu'on a pas mal abordé aussi ici dans le cadre de La Voix libre, qui, comme tu le sais, me tient particulièrement à cœur. Eh bien, écoute, je te propose, si tu es OK, de nous parler un petit peu de tes travaux. Alors, tu as travaillé sur le smartphone, tu vas bientôt travailler sur le système Linux Debian. On peut commencer par le smartphone, peut-être tout le monde connaît, ce sera un peu plus parlant pour tout le monde. Et puis ensuite, on enchaînera sur Debian, tu as la main.
Et du coup, effectivement, je suis retournée sur les bancs de l'école pour faire une thèse de doctorat en informatique autour de l'obsolescence numérique. Et en particulier, moi, j'étudie l'obsolescence logicielle. Donc, je fais partie d'une petite équipe de recherche qui s'appelle Limites numériques, qui s'intéresse au numérique, mais dans un cadre de limites planétaires, donc dans un cadre environnemental. Nous n'avons pas uniquement un angle technique et informaticien dans ce travail. En tout cas, pour ma thèse, moi, j'ai un angle qui vient un petit peu de l'étude des sciences et des techniques. Et donc, un angle un peu sociologique et historique de la science et des techniques. Donc j'ai choisi deux objets d'étude. Le premier, c'est les smartphones, parce que c'est un objet hautement obsolète, dans le sens où on le renouvelle très très souvent. Donc les chiffres mondialement montrent qu'en gros, on renouvelle notre smartphone en moyenne tous les un an et demi, maximum 3 ans. Selon les pays, ça bouge un peu, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et ensuite, je me suis dit que le smartphone va nous donner un peu des pistes sur qu'est-ce qui fait de l'obsolescence au niveau matériel, mais surtout au niveau logiciel, donc les liens entre les deux. Et ensuite, je me suis dit que je vais me pencher sur un peu pour contrecarrer cette obsolescence, ou pour voir un petit peu quelle stratégie on a déjà de remédiation à l'obsolescence, où on pourrait développer pour le futur. Je me suis dit, je vais étudier le système d'exploitation Debian, qui est un vieux système d'exploitation basé sur le noyau Linux. Vieux dans le sens où il existe depuis 30 ans, mais il n'est pas vieux du tout. Il continue à être développé avec une communauté internationale très, très active, et qui est donc un système qui est connu pour sa solidité, durabilité, effort de maintenance. Tout ça dans un cadre dans un cadre bénévole. En fait, tous les mainteneurs et développeurs Debian sont bénévoles, et la communauté refuse en quelque sorte le que l'argent rentre en jeu, en tout cas dans l'organisation première de la communauté. Et du coup, j'aimerais aller voir ça de plus près.
Alors, est-ce qu'on peut peut-être revenir un tout petit peu là sur la question du smartphone? Alors, tu nous as fait une chouette présentation à l'UTC il y a quelques minutes. Tu vas pas nous la refaire, mais tu as parlé d'obsolescence. Alors déjà, on peut peut-être rappeler quelque chose qu'on dit assez souvent, mais voilà, que c'est pas forcément exactement ce qu'on entend toujours de façon dominante dans les médias, mais typiquement au niveau des smartphones, et au niveau de l'informatique en général, la cause numéro un de l'empreinte écologique, c'est le renouvellement du matériel. Donc, pas envoyer de mail et éteindre son smartphone la nuit, si vous voulez, si ça vous donne bonne conscience. Mais fondamentalement, le geste premier, c'est ne pas acheter de nouveaux objets et même ne pas renouveler du tout. Donc, même ne pas acheter d'objets, même s'ils sont de seconde main, puisque la seconde main réattire la première main, etc. Donc, vraiment, le premier enjeu, c'est d'essayer de moins renouveler notre matériel. Et donc, comme tu l'as déjà dit, souvent on est obligé de renouveler ce matériel, ou on se sent obligé de le renouveler à cause de l'obsolescence, c'est-à-dire tout simplement le moment où ça commence à plus marcher, quoi, pour le dire autrement. Et donc ça, tu as investigué un petit peu, tu peux nous donner peut-être une ou deux pistes que tu as explorées.
Ouais, donc du coup, tu as raison, c'est le matériel, et je crois il est, selon les chiffres officiels, il est responsable d'environ entre 70 et 80%, selon les chiffres qu'on prend, de l'impact environnemental du numérique. Et du coup, là, ça touche pas uniquement l'usage ou le matériel en lui-même, mais ça touche, si on prend tout le cycle de vie depuis l'extraction des matières premières, des minéraux qu'il faut pour la fabrication, du coup, jusqu'à la production du smartphone ou des terminaux en général, pardon. Et ensuite, à la phase d'usage, et on prend la dernière phase qui est le recyclage de ces terminaux-là. Du coup, j'ai pris le smartphone parce que c'est un peu un objet de consommation courante qui a été peu étudié en termes d'obsolescence et qui pourtant est très obsolète parce que justement, on remarque en fait ce taux de renouvellement. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le taux de renouvellement, bien sûr, il est tout d'abord dû à des politiques marketing basées sur l'obsolescence, mais de façon totalement ouverte. C'est-à-dire qu'en France et un peu partout dans le monde, quand on parle d'obsolescence, et moi d'ailleurs quand je parle de ma thèse et je dis je travaille sur l'obsolescence, tout le monde me répond tout de suite l'obsolescence programmée, c'est-à-dire le petit vice caché dans le informatiquement dans le matériel ou dans le logiciel qu'on devrait trouver pour prouver qu'en fait ils ont fait exprès de ralentir des choses ou d'ajouter quelque chose qui fait qu'on doit le renouveler. En fait non, il y a une chercheuse qui a beaucoup inspiré ma thèse, en tout cas, qui est philosophe, qui s'appelle Jeanne Guin, et qui, elle a étudié justement l'obsolescence de quelques objets de consommation courante, dans le smartphone, en général, et qui nous montre, en fait, que l'obsolescence s'inscrit dans les théories marketing depuis le début des années 40, et qui est, ces théories-là sont ouvertement accessibles, ouvertement enseignées, et qui fondent un petit peu les théories marketing actuelles. Et donc on comprend mieux du coup pourquoi on nous vend toujours des nouveaux produits tous les ans. Il y a environ, je crois, entre 5 et 8 nouveaux modèles de Apple iPhone qui sortent, environ 20 nouveaux modèles de Samsung smartphone qui sortent tous les ans. Et au-dessus de ça, si on ajoute la couche OS avec une nouvelle version d'Android OS tous les ans et une nouvelle version d'Apple iOS tous les ans, en fait, on se rend compte que le matériel qui est là sur le marché, il est très fragmenté, surtout en ce qui concerne Android. Il est très fragmenté parce qu'à chaque moment, on va avoir sur le marché des terminaux qui seront très peu mis à jour au niveau du système et très peu mis à jour au niveau des versions, donc de passage d'une version supérieure du système d'exploitation, mais aussi au niveau de sécurité. Donc ça va faire que, donc ça va être mon point d'ancrage dans l'obsolescence, ça, le manque de mise à jour logicielle et surtout le manque de mise à jour du système, des OS, notamment pour Android OS. Voilà.
Ouais, et si j'ai bien compris ce que tu nous as dit tout à l'heure, cette question des mises à jour, c'est pas qu'une question de mise à jour de sécurité c'est qu'à un moment, les applications, comme elles sont développées pour les nouveaux systèmes, mais que les anciens smartphones ne peuvent pas fonctionner avec ces nouveaux systèmes, bah en quelque sorte, soit ils ne peuvent plus faire fonctionner les nouvelles applications, soit ils les font mal fonctionner. Et donc on a une situation un peu absurde où on a un smartphone qui fonctionne bien à un instant T. Et en fait, parce qu'il y a des nouveaux smartphones, bah en quelque sorte, même si ça peut paraître bizarre, c'est un peu eux qui font mal fonctionner les anciens smartphones, puisque du coup, les nouvelles applications, elles, elles vont plus fonctionner avec les anciens smartphones. Donc en fait, le fait qu'il y ait des nouveaux objets, bah c'est ça qui rend obsolète en quelque sorte les anciens objets, j'ai bien compris ou...
C'est un peu plus complexe que ça, parce que du coup, effectivement, on aura des applications qui ne vont plus du tout marcher, mais on aura aussi des phénomènes qu'on appelle d'obésiciel, bloatware en anglais. Donc ça va être que les applications sont de plus en plus fabriquées pour des OS plus récents, pour du matériel aussi plus récent, plus performant, parce que c'est un peu le marché met en avant tout le temps des matériels plus performants et c'est toujours le cas. Et du coup, c'est les applications qui vont être faites en prenant en compte les dernières versions d'OS et les nouveaux matériels qui donnent plus de liberté en termes de ressources. Ces logiciels-là vont être plus gourmands en ressources et du coup vont ralentir sur des systèmes plus vieux. Et ce ralentissement-là va très vite se sentir et va pousser un petit peu dans les usages. Nous avons déjà publié un article de recherche dans mon équipe avec Léa Mosesso et les autres personnes de mon équipe sur les usages du smartphone, et on va se rendre compte que le ralentissement ressenti, mais pas que ressenti du système d'exploitation, va être une des causes de renouvellement des terminaux. En tout cas, la situation est un peu absurde parce qu'on se retrouve avec ces matériels super performants dans notre poche qui des fois sont vraiment capables d'être aussi performant que notre ordinateur, des fois même plus performant. Et en réalité, à cause du logiciel, à cause du système d'exploitation, des logiciels privateurs captifs qui sont aussi installés dessus, on le doit beaucoup à Google dans le monde d'Android OS, et puis Apple a aussi d'autres mécanismes très captifs, on va se retrouver en fait avec une liberté d'utilisation, de réparation, de maintenance, de mise à jour très très petite au cours des mois. Enfin, on parle vraiment de mois. Et en général, moi j'ai remarqué qu'au bout d'un an, deux ans, on n'a plus de mise à jour de ces OS. Et du coup, en quelque sorte, le fabricant, il laisse tomber, en fait, il laisse tomber ces smartphones, ces modèles qu'il a sortis il y a un an ou deux, pour mettre toute son énergie et tout son argent sur les nouveaux modèles qu'il vient de marketer et sur lesquels il va mettre beaucoup de publicité et beaucoup d'efforts de développement pour le laisser tomber à leur tour dans un an ou deux. Donc voilà, c'est ce qui se passe dans le système. Enfin, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on remarque dans l'écosystème smartphone.
Allez, je te propose une troisième pause musicale avec ce qu'on a écouté un petit peu. On a écouté le début en introduction, ça s'appelait Data Ish du groupe Das Radal, pardon pour mon allemand. Et de toute façon, ma lecture, puisque là même en français, ça marchait pas, et c'est parti.
Er greift nach dir, der Megadata-Wurm im Netz versteckt. Data Data Sturm, er greift nach dir, der Megadata Wurm im Netz versteckt. Meta Data Sturm. Inspizieren, analysieren, sich konspirieren und damit regieren.
Er greift nach dir, der Megadata-Wurm im Netz versteckt. Metadata-Sturm, er greift nach dir, der Megadata-Wurm im Netz versteckt. Metadata-Sturm, er greift nach dir, der Megadata-Wurm im Netz versteckt. Metadata-Sturm, er greift nach dir, der Megadata-Wurm im Netz versteckt. Metadata-Sturm.
Eh bien, vous êtes sur 94.9 FM Radio Graphite, c'est l'émission La Voix est libre, l'émission de l'association de défense des libertés numériques Picassoft. Je suis Stéphane et je suis en studio avec Eda. On a parlé des différentes vies d'Eda, on a parlé de l'association April, on a parlé de la Quadrature du Net, de ses campagnes autour notamment de la lutte pour la vidéo, contre la vidéosurveillance ou pour la transparence des algorithmes utilisé par exemple par les services publics. Eda, tu as commencé à nous parler de tes recherches autour des questions d'environnement et de numérique, de l'obsolescence notamment des smartphones. Eh bien, ton dernier terrain, alors c'est un peu plus technique peut-être, c'est moins connu du grand public, ton dernier terrain concerne le système Debian. Alors, Debian en même temps, c'est pas connu du grand public, mais en fait tout le monde l'utilise, puisque une grande partie des serveurs que l'on utilise sur le web et bien tourne sur des systèmes Linux, et une grande partie de ces systèmes Linux, une part importante de ces systèmes Linux, sont sous le système Debian. Donc c'est un système, comme tu l'as dit déjà, ancien, très fiable. C'est un système libre qui est développé dans des stratégies donc par des bénévoles. Donc on est quand même dans des modèles assez différents de ceux des, enfin très différents de ceux des GAFAM, peut-être même opposés à ceux des GAFAM, et qui pourtant eh bien des modèles qui fonctionnent bien. Alors qu'est-ce que tu es allé chercher? Qu'est-ce que tu as envie, parce que je crois que tu démarres juste, qu'est-ce que tu as envie d'aller chercher du côté de la communauté Debian?
Alors, tu l'as très bien dit, Stéphane, Debian, comme un tas d'autres systèmes Linux, mais en particulier Debian, se retrouve beaucoup au cœur en fait, de tous nos services numériques qu'on utilise tous les jours, mais qui sont invisibilisés, parce que du coup, ça fait partie un petit peu de cette stratégie d'utiliser ces logiciels open source et libres pour... dans les industries, dans les services, dans le ce qu'on appelle le cloud, mais du coup de baser dessus tout un modèle économique de services qui ne sont pas les premiers systèmes visibles par l'utilisateur. Nous, de notre côté, de nous mettre la plupart du temps en tant que consommateurs sur des systèmes directement privatifs comme Windows ou macOS de Apple. Et du coup, oui, le monde entier tourne sous des systèmes basés sous le noyau Linux, qui sont des systèmes libres. Et Debian est un des systèmes les plus présents dans les serveurs web, dans les services en ligne, etc. Et du coup, c'est un système d'exploitation qui est connu pour sa durabilité. Mais aussi, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le mode de fonctionnement, en fait, qui est, donc je l'ai dit, communauté bénévole, communauté internationale, et avec un vrai effort qui est mis depuis le début sur la maintenance et la durabilité du système. Donc par exemple, les développeurs Debian s'appellent des mainteneurs. Donc c'est le tout début de mon terrain de thèse. Donc ma méthodologie de travail, c'est un peu de m'immerger un peu dans l'univers de ces développeurs-là et de voir comment le travail est organisé. Et je me rends compte d'ores et déjà par les dernières rencontres que j'ai faites que déjà c'est une communauté très très accueillante, donc je suis vraiment très heureuse d'être dans cette communauté-là. Bon, Moi, je viens aussi de la communauté libre et open source, donc ça ne m'étonne pas beaucoup, mais quand même, ça fait plaisir de voir cet accueil et ce plaisir de collaborer tous et toutes ensemble pour sortir de façon incrémentale, comme ça, quelque chose un peu dans, pour le bien commun, on va dire, parce que c'est vraiment une méthodologie de travail qu'on voit beaucoup chez les Debianeurs. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup d'interactions sociales dans leur façon de travailler chez Debian, et que du coup, en fait, il y a tout un travail de maintenance et de relations sociales qui fondent en fait le développement logiciel, qui sont un peu les valeurs aussi du développement en communauté du logiciel libre. Mais là, c'est vraiment très très visible. Donc je vais aller creuser un petit peu plus là-dedans. Et voir un petit peu qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion sur la façon de travailler pour des choses plus durables, des choses plus maintenables ou plus maintenues dans le monde et dans le monde logiciel en particulier. Et voilà. Et du coup, c'est aussi une façon pour moi d'aborder des alternatives un peu désirables. Parce que du coup, à la Quadrature du Net, par exemple, on vient d'ouvrir ce groupe de travail sur l'écologie et numérique. Et on partait un peu du constat qu'en fait, on est beaucoup dans les luttes, que ce soit à la Quadrature du Net, mais que ce soit aussi à l'April. On se rend bien compte qu'en fait, on est dans des imaginaires qui nous donnent envie de continuer dans le numérique, ou qui nous donnent envie, en tout cas, de faire un numérique autrement. Mais on est vraiment, on se heurte à des monopoles numériques qui sont vraiment à l'opposé de nos valeurs éthiques et sociales et environnementales, du coup. Et du coup, là, on se dit, en fait, il faut qu'on aille voir ce monde qu'on a un petit peu oublié à la Quadrature du Net, qui est le monde des alternatives différentes. En fait, la slow tech, le permacomputing dont on parlait tout à l'heure, Stéphane, et dont tu es aussi fan. Ce monde des valeurs éthiques, humaines, sociales et environnementales, du coup, du numérique. Et Debian, c'est un exemple de ça, mais plus largement dans le monde du hacking et du numérique libre, on a beaucoup de ces exemples-là.
Et effectivement, hein, tu l'as souligné, mais je ressouligne, c'est que se poser des questions environnementales, aborder la question de l'écologie dans le numérique et en général, mais notamment dans le numérique, mais encore une fois, c'est vrai, je pense, dans les autres domaines, c'est pas qu'une question d'optimisation technique, de faire tourner des logiciels mieux, de moins consommer de ressources, etc. Voilà, on a déjà abordé plein de questions comme celle-ci dans la voie libre, mais on sait que derrière, c'est aussi justement s'organiser autrement, travailler différemment, changer de système de valeurs. Voilà, donc l'exemple, effectivement, des communautés de logiciels libres, de ce point de vue-là, est super intéressante, tu l'as dit, et je trouve ça chouette d'aller creuser du côté de leur mode de fonctionnement et de leurs valeurs pour essayer de trouver, comme tu l'as souhaité aussi, d'autres alternatives. Je ne sais pas si tu veux ajouter un dernier mot, en même temps on est attendu pour un apéro en ligne dans 5 minutes, donc je ne sais pas si...
Apéro en ligne.
T'as un dernier mot, apéro en ligne, ouais, je suis d'accord. Surtout qu'on a
rien. En tout cas, j'étais très contente d'être là dans cette radio indépendante. Merci beaucoup et d'être avec toi, Stéphane, ici, et de parler de numérique libre.
Eh bien, merci beaucoup à toi, Eda. Donc, je répète, c'était Edlira Nano, Eda, que l'on recevait aujourd'hui dans La Voix est libre. Donc, si vous voulez plus d'informations sur les travaux d'Eda, eh bien, vous pouvez consulter son site web eda.mutu.net. Si vous voulez réécouter cette émission, eh bien, vous pourrez la retrouver sur radio.picasoft.net. Si vous voulez en savoir plus sur Picasoft, picasoft.net. On est présent sur Mastodon, sur Peertube, et puis d'autres émissions de radio en lien avec ces thématiques à venir sur Graphite. Les mardis après-midi, on va parler low-techisation. Les mercredis après-midi, dès deux prochaines semaines, on va parler éthique du web. Et puis, début juillet, le 5 juillet, si tout se passe bien, pour revenir sur la question des alternatives désirables, eh bien, on parlera de solarpunk, et on essaiera d'imaginer justement des avenirs un peu plus désirables. Et ben voilà, je propose qu'on se quitte sur ces derniers mots. Eda, bonne fin de journée à toi.
Merci, au revoir.
Au revoir et au revoir à toutes et à tous.